êtes bien à l'écoute des RFI, 2h à Paris, 1h temps universel.
Paul Lancin Spinelli.
Et 3h à Harare, au Zimbabwe, où se tenait ce vendredi un sommet d'urgence de la SADC sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. La communauté de développement d'Afrique australe a réaffirmé son soutien à l'intégrité territoriale de la RDC, alors que le M23 soutenu par le Rwanda s'est emparé de Goma. Pas de condamnation directe de Kigali cependant. Une stratégie très controversée, mais pour le moment infructueuse. Pour la deuxième fois cette semaine, la droite et l'extrême droite allemande ont voté ensemble un texte au Parlement pour durcir la politique de lutte contre l'immigration. Une proposition de loi rejetée, ce qui freine Friedrich Merz, le leader des chrétiens démocrates, dans la course à la chancellerie qui se jouera lors des législatives dans 3 semaines. Et puis deux voisins et un vieux rival punis par de nouvelles taxes américaines. Donald Trump annonce des droits de douane à l'encontre du Mexique, du Canada et de la Chine. Un front diplomatique pour tenter d'enrayer la dégradation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Un sommet extraordinaire des chefs d'État de la SADC s'est déroulé ce vendredi à Harare, au Zimbabwe. Le président congolais Félix Tshisekedi s'est entretenu à distance avec ses homologues, parmi eux le sud-africain Cyril Ramaphosa. En revanche, la communauté de développement d'Afrique australe n'a pas décidé de l'avenir des troupes de sa mission sur place. Claire Bargelès.
Après plus de 4 heures de réunion à huis clos, le communiqué final ne mentionne pas l'avenir des troupes de la SAMIDRC en grande difficulté sur place face au M23. Le secrétaire de l'organisation régionale a rappelé les objectifs de cette mission visant à soutenir la RDC dans sa quête de paix et de sécurité et à défendre son intégrité territoriale. Le sommet a noté que ces objectifs n'ont pas encore été réalisés, a-t-il ajouté, indiquant que la voie diplomatique reste avant tout privilégiée. La troïka de la SADC, soit l'organe chargé des questions de défense et de sécurité, et présidée par la dirigeante tanzanienne Samia Suluhu Hassan, a désormais la charge de se rapprocher de toutes les parties prenantes afin de tenter de rétablir un cessez-le-feu que Pretoria appelle de ses vœux. Alors que côté congolais, on espérait, selon une source proche de la présidence, une condamnation explicite de Kigali et la demande de retrait de ses troupes, les dirigeants se sont contentés de réaffirmer leur soutien indéfectible envers Kinshasa. Enfin, la SADC a entériné la proposition de la communauté d'Afrique de l'Est qui vise à organiser un sommet mais conjoint entre les deux institutions. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
Et puis un bilan se dessine après les affrontements pour le contrôle de Goma dans l'est de la RDC. Au moins 700 personnes ont été tuées, 2800 blessées lors des combats entre l'armée congolaise appuyée par ses alliés Wazalendo et le M23 soutenu lui par le Rwanda, désormais maître d'une grande partie de la ville. Ces chiffres ont été avancés ce vendredi par le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric, qui précise que ce bilan pourrait encore augmenter. C'est un nouveau pas vers une normalisation des relations entre la droite et l'extrême droite allemande. Pour la deuxième fois en 3 jours, les deux camps se sont entendus sur un texte au Parlement, une proposition de loi pour durcir les conditions du regroupement familial et placer plus simplement en rétention les étrangers sans papier. Sauf que cette fois, le projet de la CDU-CSU et de l'AFD a été rejeté. Pascal Thibault.
Le suspense aura duré durant des heures. La séance a été suspendue pendant 3h30 pour trouver un compromis et renvoyer le texte en commission. Les débats ont été houleux, les différents partis se rejetant la responsabilité les uns sur les autres. La proposition de loi des chrétiens démocrates visant à restreindre les flux migratoires disposait sur le papier, grâce au soutien des libéraux, de l'alliance Sarah Wagenknecht et de l'extrême droite AFD, d'une majorité. Mais des députés ont fait défection à l'arrivée. Le texte a été rejeté par 350 voix contre 338. Après le vote d'une motion anti-immigration non contraignante des chrétiens démocrates avec les voix de l'extrême droite en Allemagne mercredi, les critiques ont été nombreuses contre le candidat à la chancellerie de la CDU, Friedrich Merz. L'ex-chancelière Angela Merkel a critiqué son successeur à la tête du parti. Friedrich Merz, attaqué pour sa stratégie, subit un échec ce vendredi. L'AFD, qui sait que la population soutient une politique migratoire plus ferme, espère bien profiter de la situation. Pascal Thibault, Berlin RFI.
L'Allemagne et l'ensemble des pays membres de l'Union européenne doivent s'attendre à des droits de douane mis en place par Donald Trump. C'est ce qu'a annoncé le président américain ce vendredi. Les 27 seront donc logés à la même enseigne que le Mexique, le Canada et la Chine. Les produits des voisins mexicains et canadiens seront pour la plupart taxés à hauteur de 25% à leur entrée aux États-Unis, ceux chinois de 10%. Washington accuse Pékin de ne pas lutter suffisamment contre la production de fentanyl, cette drogue surpuissante récentes qui gangrènent les États-Unis. Parmi les autres annonces tonitruantes du dirigeant américain, la volonté de construire un bouclier antimissile similaire au dôme de fer israélien. Un projet qui n'est pas du tout du goût de la Russie. Maria Zakharova, la porte-parole de la diplomatie russe, a décrit ce vendredi un plan comparable à la guerre des étoiles soutenue par Ronald Reagan durant la guerre froide.
Ce programme vise avant tout explicitement à dévaloriser les capacités de dissuasion stratégique de la Russie et de la Chine. Il prévoit en outre un renforcement significatif de l'arsenal nucléaire américain. En fait, nous considérons qu'il s'agit d'une nouvelle confirmation de l'objectif des États-Unis de transformer l'espace en une arène de confrontation armée. Cela discrédite complètement l'initiative promue par Washington et ses alliés visant à développer des normes, des règles et des principes, comme ils le formulent, de comportement responsable dans l'espace, ainsi que pour interdire les essais de missiles satellitaires à ascension directe ayant des effets destructeurs. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ces approches des États-Unis ne contribueront pas à réduire les tensions dans la gestion de la situation dans la sphère stratégique.
Maria Zakharova, l'émissaire spécial de Donald Trump au Venezuela, Richard Grenell, annonce cette nuit que le pays sud-américain vient de relâcher 6 citoyens américains. Leur identité n'a pas été publiée. Cette libération intervient après une entrevue du représentant des États-Unis avec le président vénézuélien Nicolas Maduro. La France toujours sans budget, 3 semaines après le début de l'année, même si les contours d'un accord commencent à se dessiner. La commission mixte paritaire, composée de 7 députés et 7 sénateurs s'est entendu ce vendredi. Des mesures clés ont été scellées comme le rétablissement de 4000 postes dans l'éducation nationale ou l'instauration de taxes pour les grandes entreprises. À ça, ce sont des succès pour le Parti Socialiste, mais chaque camp veut mettre en avant ses propres victoires. Charlotte Turien-Tomaca.
Dominé par les soutiens du Premier ministre avec 8 parlementaires issus des rangs de la coalition gouvernementale, ce conclave disposait d'une majorité pour s'accorder sans tenir compte des votes des élus de gauche et du Rassemblement national. Pour Jean-René Cazeneuve, député Ensemble pour la République et suppléant dans cette CMP, c'est un compromis historique.
C'est la France qui sort gagnante de ce compromis historique avec, et il faut aussi le remarquer, un déficit de 5,4% qui a été respecté.
Jean-Philippe Tanguy, député RN et membre également de cette CMP, estime que l'humiliation est lourde pour les Républicains et que les socialistes ont vendu, je cite, ce qu'il leur restait d'âme.
Le seul qui s'en sort avec la tête haute, c'est évidemment le Rassemblement national, qui pour le moment a obtenu l'ensemble des lignes rouges.
Du côté des socialistes, on affirme avoir voté contre le budget pour marquer son appartenance à l'opposition. Boris Vallaud, président du groupe PS à l'Assemblée.
Nous nous sommes battus pour que les économies sur un certain nombre de politiques publiques qui sont essentielles ne soient pas ce qu'ils étaient au Sénat.
Les membres PS de la commission mixte paritaire vont désormais rendre compte à leur direction des avancées obtenues, avec en ligne de mire la motion de censure de la France insoumise qui devrait être déposée dès lundi si le Premier ministre décide de déclencher l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter le budget sans vote.
Charlotte Turien-Tomaca. Et puis une idée délirante pour les uns, un projet clinquant pour les autres, un mini Dubaï en plein Budapest. C'est en tout cas une polémique de plus adossée au nom de Viktor Orban. Le premier ministre nationaliste hongrois rêve de rénover le quartier de l'ancienne gare au nord-est de la capitale. Un chantier appelé Grand Budapest est confié à un promoteur émirati, Florence Labruyère.
C'est un projet grandiose du gouvernement Orban. Implanter un nouveau quartier d'affaires à Budapest, un quartier dominé par des tours, des hôtels et magasins de luxe et un gratte-ciel de 500 mètres de haut qui serait la tour la plus haute d'Europe. Le gouvernement a signé un contrat avec un promoteur de Dubaï, le milliardaire Mohamed Al-Abbar, connu pour avoir construit la tour la plus haute du monde. Ce nouveau quartier va booster l'économie et créer des milliers d'emplois, argumente le gouvernement. Mais ses détracteurs déplorent une débauche de luxe qui va tirer les prix de l'immobilier vers le haut et profiter aux oligarques proches du pouvoir. Le maire écologiste de Budapest, Gergely Karácsony, est vent debout contre ce projet qui risque selon lui de défigurer la capitale hongroise. Le maire a décidé d'exercer son droit de préemption sur le terrain et il présente un contre-projet avec des espaces verts et des logements accessibles aux Budapestois. C'est donc un véritable bras de fer qui s'annonce entre la ville de Budapest et le gouvernement de Viktor Orban. Florence Labruyère, Budapest, RFI.
C'est la fin de ce journal sur Radio France Internationale. 2h10 à Paris, 1h10 temps universel.